Alors, on va. Le texte d'aujourd'hui, je l'ai tout simplement appelé le titre Le Dieu Très-Haut fait participer Abraham à la guerre. Alors, on a vu, si on veut comprendre vraiment le texte d'aujourd'hui, il faut peut-être aller quand on va un petit peu plus loin dans les versets 18, 19, 20 et 22. Il y a quatre fois la mention de El Elyon. Quand on va dans l'hébreu, le mot hébreu qui était traduit par très haut, le Dieu très haut, c'est El Elyon. El Elyon, ça vient de deux mots. El, ça signifie fort, le fort. Et Elyon signifie créateur et maître des cieux et de la terre. Alors, c'est le fort, créateur des cieux et de la terre. Alors, souvent dans les Écritures, quand on lit un nom de Dieu comme le très haut, on ne fait pas attention nécessairement à sa racine dans l'hébreu. Mais cependant, quand on le fait, on est toujours très béni parce qu'il y a des choses qui sont importantes à savoir concernant. Dieu utilise ses noms toujours dans un contexte. Quand il utilise le nom Dieu Très-Haut ou El Elyon, d'autres fois ça va être Jéhovah, d'autres fois ça va être. Il y a toutes sortes de noms de Dieu, il y en a beaucoup, beaucoup. Mais quand le Seigneur utilise un nom dans l'original, c'est toujours significatif quant à ce qu'il va y avoir dans le texte, qu'est-ce qu'il veut nous enseigner. Alors, El Elyon, si ça veut dire, et je suis sûr que c'est ça que ça veut dire, El, ça veut dire le fort, qui domine sur les cieux et sur la terre. Alors, la leçon principale qu'on va apprendre là-dedans, c'est que c'est ça. Le fort domine sur tout ce qui se passe sur la terre. Alors, c'est important de voir cela. Alors, est-ce que, comme individu, depuis le début de notre vie chrétienne, est-ce qu'on est convaincu que le Seigneur contrôle absolument toutes choses? Les nations. Des fois, on voit des choses. Hein? Tel pays qui a déjà existé, l'Égypte a déjà été très puissante. Aujourd'hui, c'est rapetissé, ça a presque plus de puissance. Contrôler les nations. Le Seigneur augmente la puissance d'une nation ou diminue la puissance d'une nation. Il contrôle tout cela. Quand on regarde ça avec nos yeux, qu'on regarde à la télévision, des fois, on est porté à penser que tout cela, ça dépend juste des forces politiques, juste des volontés des hommes qui s'entrechoquent, puis que c'est le plus fort qui gagne, puis c'est pas de même, ça marche. Le Seigneur se sert de toutes ces choses-là, et il contrôle de façon absolue les nations. Est-ce qu'on est aussi convaincu que le Seigneur fait absolument tout cela dans les événements, dans notre vie quotidienne, à nous comme individus? S'il le fait pour les nations, pensez-vous qu'il le fait aussi pour les individus? Il le fait aussi pour les individus. Alors, les circonstances de nos vies. Alors, est-ce qu'on peut, en toute vérité, faire confiance, faire face aux tempêtes, aux épreuves et aux tentations que nous rencontrons dans notre vie, sur notre route, en confessant sereinement la phrase suivante? « Mon Dieu, El Elyon, a tout sous son contrôle. » Il y a quelque chose de rassurant quand on comprend cela, que le Seigneur est au contrôle. Alors, avons-nous confiance en sa puissance pour nous aider à résister à toutes les tentations du diable que le diable nous propose? Avons-nous suffisamment confiance pour croire que si Dieu a créé en nous un cœur nouveau, il a aussi le pouvoir de susciter en nous la faim et la soif de le connaître plus intimement. C'est bizarre parce que avant de venir ici le matin, je prends toujours une demi-heure, puis je relis mon sermon pour me remettre un petit peu dans l'idée. Et ça m'a frappé ce matin. Il y a le pouvoir de te donner la vie nouvelle, de te faire naître de nouveau. Mais il a le pouvoir de susciter en nous la faim et la soif de le connaître plus intimement. Est-ce que vous croyez que c'est quelque chose que le chrétien se devrait de désirer? Connaître Dieu, connaître Jésus-Christ plus intimement. À ce moment-là, où quand est-ce que dans nos vies de tous les jours, on demande ça à Dieu? Non, mais quand est-ce qu'on le demande? On demande ça tous les jours. Si on veut s'approcher de Dieu, s'il a le pouvoir de nous faire naître de nouveau, il a aussi le pouvoir de susciter en nous un désir, une faim, une soif de le connaître plus intimement. Alors, c'est intéressant de voir que Elion, non seulement il a pouvoir sur les nations, sur les individus, sur les circonstances des individus, mais il peut aussi faire des choses extraordinaires dans nos vies. Augmenter la crainte de Dieu, augmenter notre degré de sanctification. Mais ce matin, je relisais que le Seigneur disait qu'il accordait le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Combien de fois dans notre journée, quand on prie, qu'on demande à Dieu le Saint-Esprit? Quand on demande à Dieu le Saint-Esprit, là, on n'est pas en train de lui demander de nous faire naître de nouveau. On est en train de lui demander que son esprit nous contrôle de plus en plus, de mieux en mieux, et nous fasse connaître la personne glorieuse de Jésus-Christ. Mais des fois, quand on lit ces passages-là, que le Seigneur donne le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent, moi, je trouve que c'est des versets qui sondent. Ils nous sondent, nous. Pourquoi? Parce que là, ça nous remet face à nous-mêmes et on se dit, est-ce que je le demande souvent à Dieu, son Saint-Esprit? Parce qu'il dit qu'il va le donner à ceux qui le lui demandent. Si tu ne lui demandes pas, il ne te le donnera pas. Mais ça nous fait prendre conscience parfois que beaucoup de choses que le Seigneur met à notre disposition et qu'on ne les demande même pas les choses. Alors, nous ne pouvons saisir une telle force qu'en nous saisissant de la révélation de Dieu comme El Elyon. En termes actuels, je vais vous dire une phrase, là, puis vous me direz si vous êtes d'accord avec ça. Cette révélation-là de la personne de El Elyon et qu'est-ce que ça signifie, c'est comme on pourrait faire la révélation suivante. Dieu est le grand patron au-dessus de tout. Il a une force et une puissance infinies. Il n'y a donc pas d'accident dans notre vie, pas de hasard, pas de chance ou de sort bon ou mauvais. Chacun de nos pas est conduit par le Seigneur. C'est pourquoi tout dans nos vies et dans l'univers entier est sous son contrôle absolu. Et on va le voir par le texte de ce matin que Abraham était pogné dans une guerre et c'est Dieu qui a contrôlé tous les événements pour qu'il puisse sortir son neveu de cette fâcheuse situation dans laquelle il s'était placé lui-même. Parce qu'il faut se souvenir que la semaine dernière, on avait notre dernière leçon, on avait vu que c'était Lot avait décidé de s'en aller vivre dans les plaines de Sodome et Gomorre. Et c'est à cause de son choix qu'il s'est fait ramasser par ces rois-là. Alors, les guerres, c'est sous le contrôle absolu de l'Éternel. C'est drôle de penser à ça, que la première mention de la guerre dans la Bible, c'est dans Genèse chapitre 14. Première mention d'une guerre. Alors, ici, on voit Abraham qui est forcé, en quelque sorte, forcé, c'est le mot, il est plutôt incité à s'impliquer dans une guerre dans laquelle, dans le fond, lui, il n'y avait pas d'affaire là-dedans. Mais à cause de son neveu, il s'est impliqué. Alors, c'est intéressant de voir que les guerres, souvent, on pense que c'est juste les hommes entre eux qui se chicanent, autrement dit. Mais dans quelle mesure le Seigneur les contrôle et les utilise pour des biens, pour des fins bien précises? Quelles seraient les fins qu'il pourrait y avoir dans l'utilisation par le Seigneur des guerres? Le Seigneur les utilise comme mesure punitive pour les païens et comme mesure corrective pour les justes. Si vous lisez votre Ancien Testament, vous vous rendez compte que parfois, le peuple d'Israël était tellement dans la désobéissance que le Seigneur permettait des guerres. Mais la guerre, ce n'était pas dans le but de les tuer, c'était dans le but de les corriger de quelque chose qu'ils pratiquaient comme l'idolâtrie ou d'autres désobéissances. Le Seigneur se sert des événements, des grandes choses comme ça pour les païens, pour les punir, pour les chrétiens, pour les corriger. Quand j'avais préparé cette leçon-là, J'avais trouvé dans un livre que j'ai à la maison qui s'appelle Wilmington Guide to the Bible. Autrement dit, il prend toute la Bible puis il amène toutes sortes de statistiques sur la Bible, sur les différents livres. Il disait que la Society of International Law de Londres, en Angleterre, c'est une société qui est spécialisée dans l'étude des guerres au travers de l'histoire. Alors, ils ont étudié qu'au cours des 4000 dernières années, il y a eu seulement 268 années où il n'y avait pas de guerre. Sur 4000, c'est pas beaucoup, c'est à peu près 5%. Ça veut dire que le Seigneur, ça sert des guerres à la fois pour corriger les païens, à la fois pour corriger les siens. Alors, c'est pas beaucoup. Et malgré que tout cela, les 268 années sur 4000 qu'il y a eu de la paix, il y aurait eu des signatures de plus de 8000 traités de paix. Les hommes passent le temps à signer des traités de paix, mais souvent, ils l'utilisent juste quand ça fait leur affaire, puis pour le temps que ça fait son affaire. Après ça, ils n'ont pas de parole, même si on signe, même si on dit on s'engage à telle affaire, ils ne suivent pas. Alors, les motifs des hommes dans les guerres sont très souvent des péchés. L'orgueil, l'ambition, la convoitise. Bien sûr que dans une guerre, celui qui est vainqueur peut s'approprier des biens des autres. Alors, c'est la convoitise. Il veut plus de biens, il veut plus de terrain, il veut plus de toutes sortes de choses. Parfois, les guerres sont légitimes. Alors, parfois, c'est causé par le péché, mais d'autres fois, c'est causé pour des motifs qui sont légitimes. Comme par exemple, la volonté de recouvrer ta souveraineté nationale. Une supposition que vous êtes dans un pays, que vous faites attaquer par un pays voisin qui veut prendre le contrôle de tout ce qui se passe dans votre pays et que vous vous défendez dans le but de reprendre votre souveraineté nationale, là, vous n'agissez pas par péché. Vous agissez dans le but de recouvrer ce qui vous appartient. Alors, ce qu'on va regarder ce matin dans les versets 1 à 11, on va voir que le Dieu Très-Haut, ou El Elyon, il permet la guerre. Alors, on va regarder qui était impliqué dans ces versets-là. Alors, arriva au temps d'Amraphel, roi de Shinéar, d'Arjac, roi d'Eletsar, de Kedorlaomer, roi d'Élam, de Tidéal, roi des nations. Ils firent la guerre à Béra, roi de Sodome, à Birchar, roi de Gutsum, de Gomorre, et à Shinéab, roi d'Adma, à Shebémer, roi de Tsiboïm, et au roi Béla qui est de Soar. Tous ceux-ci se rassemblèrent dans la vallée de Sidim, qui est la mer Salée. Qu'est-ce qu'on apprend dans cela, dans les parties qui sont engagées dans la guerre? On apprend qu'il y a un moment où la guerre arrive. Alors le moment, Abraham, vous vous souvenez qu'il avait eu une grande victoire du point de vue spirituel dans la dernière épreuve qu'il avait vécue avec son neveu. Son neveu, il y avait les chicanes qui étaient pognées entre les bergers. Et lui a décidé que même s'il était le plus âgé, il aurait dû avoir le choix. Il a laissé à son gendre le choix de prendre ce qu'il lui considérait comme le meilleur. Mais l'erreur qu'il a faite, c'est qu'il n'a pas considéré dans quelle région qu'il s'en allait, puis il n'a pas vérifié si les hommes qui vivaient dans cette région-là étaient des bons ou des méchants. On le sait plus tard, parce que la Bible nous apprend plus tard dans le livre de la Genèse que les habitants de Sodome et Gomorre étaient de grands pécheurs. S'il avait pris le temps de s'informer, et s'il avait été vraiment le moindrement spirituel, il ne se serait pas en allé là. Mais là, il est en train de vivre les conséquences de son mauvais choix. Alors, pour Abraham, le moment de la guerre arrive après qu'il y a eu, lui, personnellement, une victoire. Je pense qu'il y a une leçon spirituelle que le Seigneur veut nous apprendre. Là. Souvent, quand on a eu une victoire, c'est souvent là qu'il arrive une autre affaire qui est beaucoup plus éprouvante, comme on pourrait dire. Quand on regarde les parties qui sont engagées dans cette guerre-là, on parle de 4 rois contre 5. Ça le mentionne un petit peu plus loin. On a les envahisseurs, les conquérants, on pourrait dire. Puis on a aussi les conquis, ceux qui reçoivent la visite de ces 4 rois-là. Ce qui est intéressant de se rappeler, c'est que ces 4 rois-là qui ont parti la guerre sont des descendants de Nimrod. qu'on a vu auparavant qu'ils étaient des rebelles. Et parce qu'on le sait à cause des noms des territoires qui sont près de Babylone, Shinéar, Elassar et Elam, c'est des territoires qui étaient proches de Babylone. Et une chose qu'on ne voit pas, quand on lit le texte comme ça, on ne voit pas que les noms en hébreu ont une signification particulière. Souvent, on lit ces noms-là, on dit c'est un nom bizarre, on ne comprend pas, on a de la misère à se souvenir de ça. Mais c'est des noms qui sont dans la langue hébreu. Amraphel, par exemple, quand on parle d'Amraphel, ça signifie adorateur des dieux. Arioch signifie vénéré. Kédoc la Homer signifie main pleine de gerbes et ravageurs. Autrement dit, main pleine de gerbes et ravageurs, ça implique l'idée que c'est une personne, main pleine de gerbes, autrement dit, ça accapare les biens des autres par le ravage. Alors, même dans leur nom, il y a des choses qui sont révélées quant à leur caractère. Alors, ils se sont mis en association avec le roi Tidéal pour dominer les cinq rois de la plaine fertile où Lot s'était établi. Quatre rois, dont les noms signifient qu'ils sont méchants, veulent reprendre le contrôle sur les pays. Alors, les cinq rois de la plaine, là, on en parle des cinq noms. Alors, les caractéristiques morales des envahisseurs, comme des envahis, parce que quand on regarde aussi les noms de ceux qui sont envahis, quatre rois contre cinq, les cinq rois qui ont été envahis avaient aussi des noms qui signifiaient des choses méchantes. Alors, on apprend d'eux autres qui sont des rebelles, qui sont des idolâtres, qui sont des violents, qui sont des dépravés, des méchants, des ambitieux et des cruels. Mais ce qu'on apprend aussi, c'est que les envahis, ceux qui étaient les cinq, là, qui étaient dans l'endroit où Lot a été pris, lui, sa famille et tous ses biens, ces cinq-là, ils avaient décidé d'une stratégie commune pour se libérer de leur dominateur. À ce moment-là, quand tu faisais une guerre, là, puis tu gagnais sur l'autre, il fallait que tu payes une tribu. Une tribu, ça voulait dire qu'à chaque année, tout le travail que vous avez fait dans vos récoltes ou dans quoi que ce soit, on vous demande un très haut pourcentage, que ce n'était pas la totalité. On te demandait, autrement dit, il fallait que tu payes. Et si tu ne payais pas, quand il y avait une rébellion, c'est sûr que ça occasionnait vous ne voulez pas vous soumettre? On va vous soumettre par la force. Alors, c'est de même que ça marchait à ce moment-là. Alors, les envahis, ceux de où ce que Lot s'était réfugié, ils avaient trouvé une stratégie commune pour se défendre contre les quatre rois. Et la stratégie était simple. C'était d'emmener ces cinq rois-là, ces quatre rois-là, c'est-à-dire dans un terrain où il y avait beaucoup de difficultés possibles. Autrement dit, le terrain, ça nous dit qu'il était rempli de puits de bitume. Je ne sais pas exactement comment c'est arrangé, mais ça laisse sous-entendre que c'est un terrain où il y avait des puits de pétrole. Je ne sais pas comment ça fonctionnait à cette époque-là. Mais le danger, c'est quand tu amenais des troupes de guerre là-dedans, c'était qu'ils tombent dedans. Puis le texte va nous montrer qu'il y en a définitivement qui sont tombés dedans. Alors là, la stratégie était bonne. On était sous leur domination, on s'est rebellé. Ils vont venir pour nous remettre encore sous leur domination. On va les emmener sur un terrain où ils risquent de s'enfoncer dans le bitume. Alors, c'était pas bête, mais on va voir que c'est pas tout à fait ça qui s'est passé. Alors, la raison de la guerre est mentionnée dans le verset 4, où ça dit « Pendant 12 ans, ils avaient été soumis à Kedar la Homer. » Et la 13e année, ils s'étaient révoltés. Ça faisait 12 ans qu'ils payaient. OK, on vous paye, on vous donne à peu près tous nos biens, tous les produits de notre labeur, on vous les donne. La 13e année, ils ont dû se consulter entre eux autres, ils ont dit, j'en ai assez, là. Alors là, ils ont dit, on arrête. Fait que là, il y a eu une rébellion contre les quatre rois. Alors, les envahis, les conquis s'étaient réunis pour se libérer de leur joug. Et dans le verset 5 à 11, on voit que la stratégie des envahisseurs pour reprendre le contrôle. Alors, les envahisseurs, eux qui avaient le contrôle, les quatre, ont voulu reprendre. Mais eux aussi, ils ont une stratégie. Alors, la coalition des envahisseurs décida d'utiliser l'arme de l'intimidation, de la terreur et de la prévention en attaquant systématiquement tous ceux qui étaient les plus forts de la région pour décourager les rebelles. Alors, vous avez quatre rois qui ont le contrôle sur cinq autres rois. Les cinq rois décident qu'ils ne payent plus. Eux, quand ils ont vu ça, ils auraient pu attaquer les rois directement. Au lieu de faire ça, ils ont décidé d'attaquer dans la région ceux qui étaient vraiment les plus forts et les plus puissants. L'idée était simple. Si j'écrase les plus forts de la région, ceux qui sont reconnus comme étant les plus forts, les plus puissants, les autres, ils vont s'asseoir. Alors, c'était ça qui était leur tactique. Parce que ça dit, mais la 14e année, Kedorlaomer, alors ça, c'était le chef des quatre rois du Nord, et les rois qui étaient avec lui se mirent en marche et ils bâtirent les Réphaïm. Alors, quand on fouille un peu dans les Écritures, les Réphaïm, les Uzim et les Émim étaient, et les Horiens, quand on parle dans le texte, c'étaient les nations ou les groupements qui étaient les plus forts militairement. Alors, la tactique était bien simple. Si on bat les plus forts, ceux qui se sont rébellés, ils vont s'asseoir, puis ils vont se resoumettre à nous. Alors, c'est à ça qu'était l'idée. Alors, ils dirent, verset 8, « Alors s'avancèrent le roi de Sodome, le roi de Gomorre, le roi d'Adma, le roi de Tsiboïm, le roi de Béla, qui est Tsoar. Ils se rangèrent en bataille contre eux dans la vallée de Sizim, entre Kedorlaomer, roi d'Élam, Tidéal, roi de Goyim, Amraphel, roi de Shinéar, et Arjok, roi de Elassar. Quatre rois contre cinq. La vallée de Sidim était couverte de puits de bitume. » Alors, c'est probablement des puits d'huile, que c'est sûrement pas la même technique qu'on a aujourd'hui, là, avec les grosses machines, puis des pompes, puis tout ce que vous voulez, là. Mais il reste qu'à cette époque-là, quand même, ils pouvaient utiliser ça et amener les personnes qui voulaient te reconquérir, qui voulaient te remettre sous leur domination, sur un terrain comme ça, où ils risquaient de tomber dans les puits de bitume. Pour eux, ils pensaient vraiment que c'était une bonne tactique. Alors, ça dit, la vallée de Sidim était couverte de puits de bitume. Autrement dit, ils ont voulu attaquer. Ils ont voulu dire, ceux qui nous ont attaqués, on va les emmener sur un terrain où on risque militairement qu'ils se perdent à cause de la nature même du terrain. Alors, il dit, le roi de Sodome, verset 10, la vallée de Sidim était couverte de puits de bitume. Le roi de Sodome et celui de Gomorre prirent la fuite et ils tombèrent. Voyez-vous, la tactique pour dire, ça ne marchera pas de nous réattaquer, eux, ils ont été battus, puis c'est eux qui ont trouvé cette tactique-là, qui ont tombé dans les puits de bitume. C'est ça que ça dit, là. Le roi de Sodome et celui de Gomorre prirent la fuite et ils tombèrent, et le reste s'enfuit vers la montagne. Et là, ça dit, les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorre, toutes leurs provisions, et s'en allèrent. Voyez-vous, la tactique qu'ils avaient pensée, c'est à se retourner contre eux, puis c'est à eux que c'est arrivé. Alors, c'est très intéressant de voir les noms, comme les Réphaïm, les Uzim et les Énim. Les noms, dans l'hébreu, ça veut dire les géants. Donc, les Réphaïm, c'était des nations qui étaient des hommes probablement très gros, très grands. Alors, ils se sont dit, si on bat les plus forts, eux vont s'enligner. Les Uzim, ça veut dire les puissants. Et les énimes veut dire les terribles. Autrement dit, les quatre rois du Nord, qui étaient en train de perdre le contrôle, ils ont dit, on va attaquer les plus forts de la région. Et en les attaquant, si on les vainc, on est vainqueur sur eux, les autres vont dire, oh, je pense qu'on est mieux de s'asseoir puis de se soumettre encore de nouveau. Alors, après les victoires, les quatre rois envahisseurs se rendent sur le territoire rempli de pièges des envahis de la plaine, qui étaient les cinq rois en rébellion. En fait, le piège tendu à leurs ennemis se referme sur eux-mêmes, verset 10. Autrement dit, la tactique d'emmener les ennemis sur le terrain, au lieu que ce soit les ennemis qui tombent dans le puits, c'est toi qui as tombé dedans. Alors, les cinq rois envahis et conquis perdent la bataille encore une nouvelle fois. Là, on a vu que Dieu permet la guerre. Maintenant, on va voir le deuxième point au verset 12. Le Dieu Très-Haut juge par la guerre. La guerre est un jugement dans lequel des innocents sont concernés. À vous remarquer ça, peu importe les guerres que vous allez voir sur la terre, il y a toujours des innocents qui sont pognés là-dedans, dans les conflits qu'il y a entre les hommes. Alors, ça dit, le verset 14, Genèse 14, verset 12, « Ils prirent aussi Lot. » Alors, Lot, c'est à son neveu, à Abraham. Mais Abraham, il ne s'était pas fait pogner là-dedans, mais il n'était pas dans la région où il y a eu la guerre. Il dit, « Frère d'Abraham, qui demeurait dans Sodome, et tout son bien, et ils s'en allèrent. » Alors, Abraham, ou Lot, qui avait fait le mauvais choix, se ramasse, il se fait ramasser par les rois, et non seulement lui personnellement, sa famille et tous ceux qui lui appartenaient, et tous ses biens lui ont été comme saisis. Je pense qu'il y a plusieurs leçons qui nous sont enseignées dans ce passage-là. Je pense qu'une des leçons, c'est que la guerre est parfois justifiable, dans le sens de, on a le droit de vouloir recouvrer notre souveraineté, notre famille et nos biens lorsqu'ils nous sont faits par force, imposés par force. La deuxième leçon, c'est que la victoire est souvent expérimentée par les méchants et ceux dont la cause est injuste. Voyez-vous, qui gagne ici, c'est les quatre rois qui avaient déjà dominé les cinq, qui déjà, et là, ils perdent, ceux qui s'étaient révoltés, ils perdent une deuxième fois. Alors, qu'est-ce que la Bible nous apprend? Que parfois, les méchants, ils gagnent pareil. Et la troisième leçon nous montre que des grandes souffrances et de grands désastres accompagnent toutes les guerres. Lot est impliqué, bien malgré lui, dans cette guerre-là. Alors, ce n'est pas Lot qui a décidé de s'embarquer dans cette guerre-là. La guerre est arrivée, les dominateurs, les conquérants sont arrivés et ils ont tous saisi sa famille, tous ses biens, toutes ces personnes qui étaient autour de lui et ils ont tous saisi ses biens et sont partis avec. La guerre, souvent, le Seigneur va l'utiliser, comme on l'a dit tantôt, comme instrument de rétribution. La rétribution, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, il avait péché par convoitise. Il avait levé les yeux, il avait vu la plaine, que tout était beau, des billes, il y avait plein d'eau pour ses animaux. Il avait décidé de prendre ça. Donc, le motif qui l'avait amené à ne pas vérifier si ces gens-là étaient méchants ou non, c'était vraiment, OK, moi j'ai de l'eau pour mes bêtes. Il n'a pas regardé plus loin que le bout de son nez, autrement dit. Et c'est ce qui a fait qu'il s'est ramassé dans cette situation-là. Il méritait un jugement divin. Il avait fait un mauvais choix en quittant Abraham et son influence. Il avait fait un mauvais choix en cédant à la convoitise et à la facilité et en persévérant à demeurer dans des territoires où il voyait que les habitants étaient de grands pécheurs. C'est sûr qu'au début, on peut se dire, « Ouais, mais il a choisi ça, mais il ne savait pas. » Mais quand il est arrivé, il a dû le voir. Il a dû le voir que c'était des gens méchants. Plutôt que de retourner... Il a décidé de demeurer là, mais on a vu qu'est-ce qui arrive. Alors, le Seigneur permet qu'il soit captif et qu'il perde tous ses biens. Voyez-vous la loi de la rétribution là-dedans? Quand tu pèches par convoitise, souvent le Seigneur fait que tu perdes les biens que tu as convoités. Bizarre, hein, la manière que le Seigneur fonctionne. Deuxième chose qu'on voit là-dedans, c'est que Lot ne perçoit probablement pas la cause de son malheur, qui est un jugement divin. C'est sûr que quelqu'un qui ne fait pas attention à la manière... Le Seigneur nous parle à tous les jours, hein, pour toutes sortes de circonstances. Si on ne fait pas attention à ce qu'il nous dit, bien, à quelque part, on s'endurcit. Le jugement que le Seigneur lui donne est vraiment approprié parce qu'il avait péché par convoitise, et là, le voilà privé de tous ses biens. C'est assez spécial. Mais le jugement de Dieu, une chose à remarquer dans le contexte, est quand même miséricordieux. Parce qu'il aurait pu permettre qu'il perde sa vie, sa femme, ses enfants et tout son entourage. Dieu permet ses biens, mais ne permet pas que les méchants touchent à sa vie. Et on voit aussi dans le texte que, dans le fond, il a pas vraiment compris, parce qu'on va lire un petit peu, il a retourné dans l'endroit où il était. Alors, des fois, Dieu nous parle par des circonstances, par toutes sortes de moyens. Et si on n'est pas attentif à ce qu'il nous dit, ben on fait notre tête et on retourne encore dans le même péché qu'on avait au début. Et c'est là que ça se complique un peu quand le Seigneur va venir visiter pour Sodome et Gomorrhe. Alors, prions. Ça, c'est une chose qu'on peut faire. Prions le Seigneur de nous donner, de ne pas mépriser ou de ne pas ignorer ses jugements et ses miséricordes providentielles. Qu'est-ce qui arrive? Les circonstances de nos vies. Parfois, le Seigneur nous parle par les circonstances de nos vies. Si on n'est pas attentif, bien sûr, on va retomber dans les mêmes affaires. Et le troisième point qu'on va regarder, c'est que le Dieu Très-Haut contrôle la guerre. Versets 13 à 16, un contrôle... Voyez-vous, la guerre aurait pu arriver que Lot, sa famille, tous ses biens se fassent ramasser, puis qu'Abraham ne le sache pas. Dieu contrôle toutes choses. Il permet qu'il y en a un qui vienne avertir Abraham que son neveu avait été pris là-dedans. Alors, ça dit dans les versets 13 et 14, « Et un fugitif. » Un fugitif, c'est quelqu'un qui fuit. Il était dans la guerre, puis il a dit, « Oh, moi, je m'en vais, puis je m'en vais avertir Abraham que son neveu s'est fait prendre. » Et c'est la première fois aussi que le texte dit, « Et un fugitif vint l'annoncer à Abraham l'Hébreu. » La première fois que c'est mentionné qu'Abraham est Hébreu. Abraham l'Hébreu. Or, il demeurait aux chênes de Mamré, l'Amoréen, et le frère d'Ascol et le frère d'Aner qui avaient fait alliance avec Abraham. Et quand Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses fidèles nés dans sa maison et poursuivit ses rois jusqu'à Dan. Il faut se mettre, à l'époque, une armée de 318 hommes, c'était une grosse armée. Parce que c'était plutôt des guerres régionales, c'était pas des guerres internationales comme on a eu, là, 39-45 ou 14-18. Alors, le Seigneur permet qu'un fugitif vienne annoncer à Abraham que son neveu a été prisonnier. Abraham, il aurait pu dire, « Ah oui, il a voulu faire son fin-fin l'autre jour, il a voulu y aller à Sodome, mais qu'il s'arrange ses troubles, c'est ça. » Voyez-vous, on voit l'âme d'un véritable croyant qui, quand il voit que quelqu'un qu'il connaît, même s'il a fait une bêtise monumentale en s'en allant dans ce coin-là, il ne reste pas là-dessus et dit, « Ben là, qu'il paye pour, c'est à lui de s'enligner. » Alors ici, on voit Abraham qui fait preuve d'une grande grandeur d'âme et de noblesse, et il n'est pas un revanchard. Il ne cherche pas de dire, « Ben là, bonne vengeance pour moi. » Il fait preuve de compassion fraternelle et d'un grand courage au prix de sa propre vie. Il part avec 318 hommes dans le but de rattraper ces gens-là, dans le but de les soumettre et dans le but de récupérer à la fois les personnes et les biens. Il risquait sa vie pour Lot, qui était son neveu, qui avait fait des bêtises. Alors, on voit Abraham, souvent les Écritures nous parlent d'Abraham comme étant le père des croyants, comme étant un modèle. On voit là-dedans qu'il agit vraiment de façon... très, très généreuse. Alors, dans le verset 15, le Seigneur nous montre aussi que le Seigneur permet qu'il ait une tactique qui va lui donner la victoire. Dans le verset 15, ça dit, « Puis, ayant partagé ses troupes, il se jeta sur eux de nuit, lui et ses serviteurs, et il les battit et les poursuivit jusqu'à Hoba, qui est à gauche de Damas. » Le Seigneur permet que Abraham fasse preuve d'un génie militaire. Il divise ses troupes, puis il attaque de nuit. Alors, quand il fait noir autour de toi, tu ne sais pas vraiment la quantité de soldats qui viennent t'attaquer. Et ça, c'est du génie militaire. Mais le génie militaire, il ne venait pas d'Abraham lui-même. Il venait du fait que Dieu lui inspire du génie militaire. Alors, c'est ce qui a fait qu'il a pu gagner. Alors, ces stratégies d'Abraham sont brillantes pour plusieurs raisons. La rapidité de son intervention. Autrement dit, il n'a pas agi au bout d'un mois. Il a amassé 318 hommes. Il a dit, on prend des armes, puis on court après, puis on les ramasse, puis on ramène nos gens, on ramène leurs biens. Alors, non seulement la rapidité de son intervention, le fait qu'il ait partagé ses troupes et le fait aussi qu'il ait attaqué de nuit. Tout ça est couronné de succès, comme ça nous le dit. Mais il faut se souvenir que, parce qu'on pourrait, l'homme peut facilement des fois vouloir s'attribuer le succès de quelque chose quand il ne réfléchit pas un peu à ce qui se passe. Et alors dans le verset 16, ça dit « Et il ramena toutes les richesses qu'on avait prises, il ramena aussi Lot, son frère, ses biens, et les femmes aussi, et le peuple. » L'Éternel nous apprend dans sa parole qu'il peut accorder des victoires avec peu ou beaucoup de personnes dans une guerre. Je vais vous lire des passages. Dans 1 Samuel, au chapitre 14, au verset 6. « Et Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens, passons vers le poste de ces incirconcis. Peut-être que l'Éternel agira pour nous. » Car rien n'empêche l'Éternel de délivrer avec beaucoup de gens ou avec peu. Un autre exemple, dans le livre des Juges, Gédéon. Ça, c'est intéressant. Versets 2 à 7. 2, 3 et 7. Or, l'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple qui est avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian en ses mains. Israël se glorifierait contre moi en disant, « C'est ma main qui m'a délivré. » Maintenant, donc, publie ceci aux oreilles du peuple et qu'on dise que celui qui est timide et qui a peur s'en retourne et s'éloigne librement de la montagne de Galaad. Et 22 000 d'entre le peuple s'en retournèrent. 22 000, c'est du monde. Et il en resta 10 000. Alors l'Éternel dit à Gédéon, « Je vous délivrerai par 300 hommes qui ont lapé l'eau et je livrerai Madian entre tes mains. » Que tout le peuple s'en aille, chacun chez soi. Mais là, si on veut avoir une idée de comment l'Éternel se sert d'un petit groupe de 300 hommes, il faut avoir l'idée de la grandeur de l'ennemi. Alors, John Gill, qui est un très grand érudit biblique, dit dans son commentaire que les Midianites, selon, je ne sais pas sur quoi qu'ils se basent, mais en tout cas, je suis sûr que ce n'est pas un homme qui dit n'importe quoi, là. Il paraît que les Madianites auraient été au nombre de 130 000. 130 000 hommes, puis le Seigneur dit, garde, là, vous étiez 32 000, ceux qui ont peur, allez-vous-en. 22 000 s'en vont. Après ça, il dit, non, il en reste trop, parce que si je les fais battre avec ce qui reste, ils vont encore penser que c'est eux qui ont gagné. Ils vont s'attribuer la victoire. Enlève-en encore, il a réduit ça à 300 hommes. 300 hommes qui se battent contre 130 000 hommes. Si Dieu n'est pas avec toi, tes chances sont minces, comme on dit. Alors, le ratio des combattants, des soldats israélites, sur les soldats madianites, c'est de l'ordre de 1 sur 430. C'est un peu comme si vous voudriez attaquer 430 hommes, vous direz, venez-vous-en. 430 gars, je pense qu'on prendrait nos pattes pour s'en irait plus tôt, hein. Ça serait plus logique. Mais si Dieu lui-même vous dirait « Je vais te donner la victoire contre ces 430 hommes-là », ben il pourrait le faire. De quelle façon, j'en ai aucune idée. Mais il le fait dans l'histoire. Quand vous lisez votre Ancien Testament, là, des histoires comme ça, il y en a plein. Il y en a plein, plein, plein. Des fois, des affaires où le Seigneur dit « Faites juste regarder, je vais vous montrer comment ça marche. » Et le lendemain matin, 180 000 hommes de mort, des personnes qui avaient attaqué Israël. Alors, le Seigneur contrôle absolument toute chose. Et ici, je pense que l'idée à retenir, c'est que, oui, Abraham a eu la victoire. Oui, il a pu libérer son neveu Lot. Oui, il a pu libérer sa famille. Oui, il a pu récupérer ses biens, non seulement de Lot, mais de tous les rois. Il a tout récupéré les biens de tout le monde. On va voir la semaine prochaine comment dans son cœur aussi, il a géré sa victoire. Parce que lui aussi, il aurait pu se péter bretelle. C'est moi qui ai gagné. Amenez-moi ces sites, ces biens-là, moi m'occuper de ça, moi. Là. Pas ce qu'il a fait du tout. Alors, on va voir que Abraham a beaucoup de leçons à nous montrer comme croyants, qui agit de la manière qu'il agit. Alors, quelques applications pour terminer. N'oublions jamais que nous sommes en guerre spirituelle et que le Seigneur peut nous accorder des victoires spectaculaires sur des ennemis forts, organisés et très nombreux. Si on avait l'idée de combien de malins, combien d'esprits malins nous entourent et cherchent, mais Dieu peut nous accorder la victoire, comme on vient de le voir dans le texte. Deuxième chose, imitons Abraham en volant au secours de nos frères et sœurs dans la foi au moment où ils vivent des difficultés. C'est tellement facile de fermer les yeux quand on voit un frère ou une sœur dans les difficultés. Ça ne me regarde pas, ça, moi. Surtout quand c'est vrai que ça ne te regarde pas, des fois. Là. Mais il est dans les troubles jusqu'aux oreilles. Et on voit qu'un véritable chrétien ne dit pas, ben là, qu'il s'arrange avec ses troubles. Il intervient, et même au prix de sa propre vie. Est-ce qu'on interviendrait, nous, pour protéger un frère ou une sœur au prix de notre vie, en risquant notre propre vie, en essayant de l'aider? Je pense que Abraham, ici, nous donne une leçon sérieuse. Troisième application, rappelons-nous que toutes les victoires trouvent leur source en El Elyon, le Dieu fort, le Dieu très haut, le Dieu souverain, le Dieu suprême, le Dieu exalté, tant au ciel que sur la terre. Il est le Dieu qui contrôle absolument tout. Quatrième et dernière, implorons le Seigneur de nous donner de comprendre et d'appliquer dans nos vies toutes les leçons de ce passage dans notre vie de tous les jours. Si on relit ce passage-là, avec les noms, là, on ne fait pas souvent, je n'ai pas nommé tous les noms, ça t'aurait arrêté trop long, mais même les noms dans les Écritures en hébreu veulent dire quelque chose. Et quand on se donne la peine d'aller les fouiller et les mettre devant nous, ça prend une dimension qui est encore plus riche. Alors ça, c'est tellement important de voir ça. Alors, comprendre, parce que ce que je lisais justement, je vous parlais du livre la prédication textuelle, et dire, la première chose qu'il faut que tu fasses, c'est de regarder la signification du texte, qu'est-ce que ça voulait dire à l'époque. Après, tu réfléchis au point de vue théologique, et tu essaies toujours de faire un lien avec la personne de Jésus-Christ ou son œuvre. Et là, je vous résume ça en une phrase, là, mais il faudrait donner des exemples. Et c'est ce qu'il faut chercher à faire quand on prêche et ce qu'il faut chercher à faire quand on entend des sermons. Un sermon, c'est pas juste on s'assied et on écoute des phrases. Un sermon, c'est censé parler à notre cœur dans le but de changer quelque chose dans nos vies, nous emmener à la repentance, nous emmener à un changement dans notre vie. La seule façon de faire ça, quand je vous ai parlé la semaine dernière, je vous prie de prier pour moi quand je prépare mes messages, mais n'oubliez pas de prier pour vous aussi, que le Seigneur prépare vos cœurs à la réception des sermons. Parce que les sermons, c'est supposé nous dire quelque chose. Il y a des principes qui ont été énoncés tantôt. Ces principes-là, c'est censé nous amener à un changement dans notre comportement, dans notre manière de penser, dans notre manière de parler, dans notre manière d'agir. Quand ça ne le fait pas, c'est probablement parce qu'il n'y a pas eu assez de prières, ou que le prédicateur s'est mal préparé, ou que le prédicateur n'a pas assez prié. Mais dans le fond, qu'est-ce qui fait le succès d'une prédication? C'est que le Saint-Esprit, parce qu'on disait tantôt qu'on demande au Saint-Esprit, il faut le demander. Moi, il faut que je le demande. Et vous aussi, vous devez le demander. Pour que Dieu vous mette dans une disposition d'esprit que quand vous recevez un message, ce n'est pas juste quelque chose qui vous rentre par une oreille et qui sort par l'autre. Ça reste dans votre cœur. Ça vient faire un changement dans votre vie. Sinon, c'est une perte de temps. Ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Tu sais, souvent, on dit ça à quelqu'un, oh, ça ne donne rien de dire quelque chose, lui, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Ça veut dire qu'il n'y a rien retenu. Mais il faut que quand on écoute la parole de Dieu, on a la responsabilité. Ce n'est pas juste ma responsabilité de vous faire appliquer un texte à votre vie. C'est la vôtre aussi. Alors, il faut apprendre à tous les jours de demander au Seigneur son esprit de manière à ce que quand on reçoit un message, que le message parle à notre cœur, qu'il transforme notre vie, à nous faire ressembler davantage à Jésus-Christ. C'est le but fondamental des Écritures. Hein. Dieu nous dit que le but de notre vie, c'est de nous emmener à ressembler davantage à Jésus-Christ. Quel contrat! Alors, si après avoir entendu un message, il n'y a rien dans votre vie qui vous amène à être, comment serait l'épaisseur d'un cheveu, à ressembler davantage à Jésus-Christ, ça a été du temps perdu. Et ça, c'est, on se devrait de se confesser de ça quand ça arrive. Alors, on va terminer là-dessus. Alors, Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci encore une fois pour cette leçon. Elles sont tellement nombreuses, les leçons. On a tellement besoin, Seigneur, de lire les Écritures, et non seulement de les lire, mais de les méditer. Et de que ton esprit nous éclaire, nous guide, nous fasse retenir les principes que tu veux. Il y a des leçons là-dedans, dans toutes les prédications que tu permets qu'on reçoive, Seigneur. Il y a des choses que tu veux qu'on apprenne dans le but de ressembler davantage à Jésus-Christ. Permets qu'on les saisisse, qu'on les applique et qu'on les mette en pratique dans notre vie de tous les jours. On te le demande en Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen.